On marche sur la tête. Europe 1. 2 septembre 2024. 16h, 18h. On est en direct. J'aimerais qu'on parle tout de suite directement de cette affaire, ce drame qui nous a tous bouleversés. C'est la mort de Camilia, cette fillette de 7 ans qui a été percutée par un motard jeudi dernier à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Le suspect a été interpellé, a été mis en examen avant d'être relâché et placé sous contrôle judiciaire. Alors forcément, combien j'ai croisé de gens ce week-end qui m'ont dit « Votre émission n'a jamais aussi bien porté son nom, on marche sur la tête ». Et justement, on va en parler avec vous, auditeurs. Êtes-vous d'accord avec la décision de la justice? Bien entendu, on vous pose la question. Pour moi, je le dis, on marche sur la tête forcément. On se dit c'est pas possible, pour une bêtise pareille, un rodéo urbain, non mais quelle bêtise! Et quand je les vois faire leurs deux roues, je vous jure, j'ai envie de dire vous êtes des abrutis. Et quand j'ai vu qu'il avait été relâché, je me suis dit mais dans quel monde vit-on? Roland, vous vouliez réagir à ça? Oui, je comprends pas. Je pense que c'est un très mauvais signal qu'on envoie à la jeunesse de notre pays. C'est pas un homicide involontaire comme les autres. Quand même, il a foncé sur une ligne droite à toute vitesse, il a fait une roue arrière, je ne comprends vraiment pas qu'on puisse le mettre sous contrôle judiciaire. Et les Français, ils disent quoi? On fait ce qu'on veut? C'est ça. On va pouvoir être libéré le temps du procès. Alors après, on va encore m'expliquer qu'il faut pas de justice expéditive. Mais le problème, c'est que moi, je pense aux Français qui se lèvent le matin, qui bossent, exactement, qui respectent les règles. On va embêter certains Français parce qu'ils ne paient pas une contravention dans le moment donné? Mais exactement, je suis d'accord avec vous. Et franchement, derrière, il se passe quoi? Eh ben, il se passe ça. Et au bout d'un moment, les Français, ils se disent « Mais c'est pas possible, quoi !» Roland, parfois je vois des gars qui se font arrêter et qui insultent les policiers. Et il se passe rien. Excusez-moi, en fait, ça rend fou. Parfois, on se dit, on marche sur la tête. Non, mais c'est un truc de fou. C'est insupportable. Et je comprends votre colère, Roland. Mais si je peux me permettre, vous êtes la majorité silencieuse. Vous êtes la majorité silencieuse, sachez-le. Et ceux qui ne marchent pas avec la France, mais contre la France, ils sont peut-être plus bruyants. Mais à l'arrivée, je peux vous dire que c'est pas eux, la majorité. J'ai énormément d'auditeurs en ligne qui me disent, on n'en peut plus, la coupe est pleine. On va tout de suite écouter Catherine qui est très énervée, qui habite dans la Manche. Elle est colère, Catherine. Merci Catherine d'être avec nous. J'ai coupé au moment de découvrir ce que Catherine dans la Manche pensait de tout ça. Au début de l'été 2024, l'extrême droite est arrivée en tête des élections européennes puis du premier tour des législatives. 2 mois plus tard, une enfant se rendant à l'école a été tuée par un jeune motard en roue arrière. Et le commentaire du drame assure plusieurs heures d'antenne à des médias qui raffolent de ce genre d'affaires. Depuis quelques années déjà, les commentateurs se déchirent pour savoir s'il faut retirer les allocations familiales aux parents d'enfants délinquants. Des syndicats de police, appuyés dans l'hémicycle, réclament le droit de percuter les motards avec leur voiture. Des maires suggèrent de tirer au paintball sur les jeunes qui font des roues arrière avec une peinture invisible qui faciliterait leur identification. D'autres réfléchissent à envoyer l'armée dans les cités. Et des boutiquiers se frottent les mains en rendant public les prénoms de certains meurtriers pour brandir leurs origines. Et faute d'idées nouvelles, se lamenter sur la décadence de la France, faisant passer leur peur pour des opinions, en courtier de malheur. À la fin de ce premier quart de siècle, la pensée se trouve de plus en plus empêchée par la saturation de faits divers et végète sous la tyrannie de l'émotion immédiate que ces derniers exigent. Ces événements, quand on les prend un à un et qu'on les décortique, peuvent raconter leur époque et l'absurdité tragique qui pend au nez de chacun. Mais leur prolifération, accompagnée à chaque fois de conclusions et de solutions clés en main, est devenue si abondante qu'elle a presque l'effet inverse, celui d'annihiler leur possible signification. Les esprits qui croient que l'anagramme d'un mot lui donne son sens caché ne verront aucun hasard à ce que l'anagramme de « faits divers » soit le mot « dérivatif », ce qui permet de détourner l'esprit de ses préoccupations. De la même manière que la roue arrière sert d'échappatoire à la monotonie du réel le temps d'une envolée à 80 km/h, la passion du fait divers permet à l'opinion de trouver dans l'indignation sporadique une forme de divertissement infini et une inépuisable source d'ostentatoire vertu. Le « proche de la victime » est ainsi devenu un personnage médiatique à part entière. Il est fréquent de le voir à la télévision apporter son point de vue sur ce que devrait être la réponse pénale. Et ses paroles sont recueillies avec la déférence réservée aux experts. Il y a du bon dans cette évolution, notamment quand il s'agit de crimes routiers. Mais cela marque aussi la mue d'une époque où la lamentation publique est sacralisée au point que chacun vient réclamer son titre dans l'aristocratie victimaire. La pâture des temps modernes devient cette Macédoine composée d'indignation, de rendez-vous compte, d'appel au bon sens, où l'on décrète que comprendre, c'est déjà excuser, dans une conversation publique qui suffoque de désigner le doute comme une compromission. Pendant que je rouvrais l'enquête sur la collision et sur le profil du coupable, une amie m'avait demandé si je n'avais pas peur d'écrire un récit qui viendrait valider les ritournelles populistes qui, depuis 10 ans, intoxiquent les esprits et irriguent les tissus de la société par percolation, goutte à goutte, en assurant au passage les audiences des bonisseurs d'estrade et de plateau. La collision simplifiait le réel de manière si brutale que même Mounir, le travailleur social de la Croix-Rousse, s'en était inquiété. C'est vrai qu'on peut comprendre les raccourcis qui sont faits, avec l'arabe qui tue la femme française qui va au boulot. Si on s'arrête à ça, bah oui. C'est aussi une des dernières questions que m'avait posée Afsia, lorsque nous nous étions quittés place Bellecour. Elle s'était presque excusée de la poser, mais elle y tenait absolument. Est-ce que... après tout ça, vous n'avez pas un dégoût de la communauté maghrébine ? Je lui avais répondu que l'écriture permettait précisément de réinjecter de l'humain dans des histoires manichéennes, non pas pour diluer les responsabilités, mais pour apaiser la colère et sortir du piège des sommations qu'exigeait l'époque. Et qu'il y avait urgence à faire cela au moment où des présentateurs tirés à 4 épingles se repaissaient du moindre fait divers dans lequel de jeunes descendants d'immigrés étaient impliqués. Ce n'est sans doute pas un hasard si je travaille souvent sur l'extrême droite. Non que cette expérience m'ait donné une légitimité particulière, mais peut-être parle-t-on du rejet de l'autre avec un regard plus sensible quand on l'a soi-même touché du doigt, en refusant de s'y laisser glisser. Afsia avait devancé ma réponse, comme pour bien mettre les points sur les i. Vous savez, moi je suis contre les voyous. Avec mes enfants, je fais l'inverse de ce que j'ai vu sur les pentes. Je veux qu'ils aient une éducation parfaite. Quand j'entends un wesh-wesh dans la rue, ça me met hors de moi. Si vous cherchez une morale à votre histoire, vous vous planterez. La remarque tient moins de l'avertissement que du conseil venant de celui qui sait de quoi il parle. Parce que, évidemment, il en a vu d'autres, des gens qui ne se remettent pas de l'absurde qui leur est tombé sur la tête. Philippe Moreau est juge. Il est même président de chambre. C'est lui qui présidait l'audience où Saïd et ma famille s'étaient retrouvés face à face, en 2013. C'est lui qui a dépiauté le dossier de l'accident pendant la journée qu'a duré le procès, entendu les plaidoiries, sous-pesé les réquisitions et pris en compte les explications de chacun pour en conclure que la peine méritée pour Saïd serait de 4 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes, et que 6 et 8 mois de sursis serviraient de leçon à Hamza et à Youssef. Sur la délinquance, sur son évolution et sur l'évolution de sa perception, il pourrait épiloguer pendant des heures. Mais une morale à cette histoire ? C'est juste que votre mère était au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le mauvais centimètre à la mauvaise seconde, et c'est tout. Quand Philippe Moreau lance ça, il le fait dans un rire saccadé, où perce la malice d'une vie consacrée à juger la complexité de la condition humaine. Ses yeux, qui ne dévient pas de leur mire, lui donnent toujours l'air de scruter l'âme de celui qui lui fait face. Pas le genre de visage qu'on oublie. Et pourtant, je n'ai aucun souvenir de lui à l'audience. Un aveu qui le flatte, c'est même le meilleur compliment que l'on puisse faire à un juge. « Si vous ne vous souvenez pas de moi, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. » Aujourd'hui, Philippe Moreau me reçoit dans un petit bureau situé dans l'un des nombreux couloirs des 24 colonnes, le palais de justice historique de Lyon, qui domine les quais de Saône, à 2 pas de la cathédrale Saint-Jean. Le bâtiment même où Klaus Barbie, l'homme responsable de la mort de mon arrière-grand-père, fut jugé devant les caméras du monde entier 38 ans plus tôt. À l'époque où justice était rendue dans des bâtiments qui se donnaient encore la peine de ressembler à des temples. Le nouveau tribunal judiciaire de Lyon, où fut jugé l'accident de ma mère, a quant à lui l'apparence d'un hall d'aéroport, comme s'il avait fallu gommer ce qu'il restait de solennité à la justice pour faire passer l'idée qu'elle se réduisait désormais à une simple procédure. Dans ce tribunal dont il parle comme de sa propre maison, Philippe Moreau occupe un petit bureau qui offre tout juste assez de place pour une table en bois et une commode à tiroirs. Le fauteuil en simili-cuir et le vieil ordinateur, qu'on imagine péniblement mis à jour, retirent au lieu la majesté que le craquement du parquet séculaire et la volée d'escalier en pierre de taille s'épuisent à rappeler depuis des décennies. L'exiguïté du bureau ne donne pas la mesure du magistrat qui l'occupe. Car on peut dire que Philippe Moreau, à 60 ans, est un des juges les plus éminents de la maison. Avant d'interpréter et d'appliquer la loi, il l'a fabriquée à différents échelons, au sein de l'administration centrale du ministère d'abord, notamment aux côtés de François Molins, quand celui-ci travaillait à la chancellerie, puis dans toutes les instances à acronyme du pays qui défrichent de nouvelles frontières du droit. Il a participé à encadrer les techniques de renseignement, se spécialisant dans l'art de fixer le juste prix de la liberté, en inscrivant des régulations dans le marbre au nom de l'intérêt général. Philippe Moreau fut notamment de ceux qui créèrent le référé liberté, qui permet tous les jours à des citoyens se sentant lésés par une interdiction administrative de contester la main leste du pouvoir. Il participa aussi au développement des JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée. Des dispositifs qui permettent aux juges d'instruction d'autoriser plus facilement des infiltrations et des mises sur écoute, avant de se spécialiser dans les affaires financières et de s'orienter vers le trafic de stupéfiants dans le sud de la France. Un domaine dont il sentait qu'il allait prendre de l'ampleur dans les années à venir. Tout le grand banditisme, de Porto Vecchio à Annonay, c'était pour moi, résume-t-il. Bref, Philippe Moreau est une pointure. Il est fait du même bois qu'Alfred Cordier, un homme qu'il estime au point de confier que l'on a eu de la chance de l'avoir face à nous. Comme lui, il sait poser des limites aux relations qu'il entretient avec les parties d'une affaire. À chacune de mes questions qui cherchent à éclaircir le parcours de Saïd, il répond systématiquement par un « joker » et un sourire entendu. Saïd et son frère Abdel assassiné, il les a bien connus, comme tous les caïds du bassin lyonnais. Mais il n'en dira rien. S'il a accepté de me rencontrer, ce n'est pas pour me servir de source, mais parce qu'il a décidé qu'il était de son devoir de renseigner sur le fonctionnement de la justice. Comme Alfred Cordier, Philippe Moreau est attaché au principe, un attachement dont la preuve paradoxale se situe dans sa capacité à les transgresser quand sa conviction intime lui en dicte la nécessité. Parmi tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé dans ma vie, ceux pour lesquels j'accepte de recevoir une des parties se comptent sur les doigts d'une main. La vôtre est de cela. Cela tient sans doute à ce qu'il brandit devant mon visage quand il me fait asseoir face à lui. Une paire de gants coquets en cuir noir, siglés de trois lettres qu'il tapote du doigt. KTM. La même marque que la moto de Saïd. Sourcils levés et sourire en coin, comme pour dire qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. « Je suis venu avec ma KTM ce matin. Comme tous les jours. C'est déjà ma troisième. Je connais cette moto par cœur. » Philippe Moreau est un passionné de moto et tient à le faire savoir d'emblée. Un gros casque repose sur la commode et un blouson en cuir renforcé aux coudes et aux épaules pend au dossier de son fauteuil. Tout ce que l'on ne pouvait pas déceler sous la robe le jour de l'audience et qui explique sans doute que ce dossier l'est marqué plus que les autres. Parce qu'il connaît cette sensation de surpuissance mécanique, cette hubris qui a poussé Saïd à la faute. De son propre aveu, la KTM est une motocross énervée. « Les premières fois, je n'ai pas réussi à démarrer au feu sans que la roue avant ne se lève, tellement c'était puissant !» Une sensation qu'il ne sait décrire autrement que par un « piou » sifflé les yeux vers le plafond. « On se prend un pied permanent avec cette moto, si vous saviez !» La remarque pourrait paraître déplacée de sa part, mais l'évocation de son penchant pour la KTM illustre là où il veut en venir. Il juge les hommes en tant que leurs semblables, et non depuis l'Olympe. C'est précisément parce qu'il est motard qu'il pouvait comprendre Saïd quand il s'est agi de le juger. Et c'est précisément parce qu'il est père et mari que la peine de notre famille lui était insupportable. Vous savez, à chaque fois que je passe rue Romarin, je pense à votre mère, admet-il, moins pour tempérer sa passion de la moto que pour signifier qu'il est soulagé de me voir. Lui non plus. La collision ne l'a jamais complètement quitté depuis 2012, comme tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, de près ou de loin. Un des juges d'instruction, rencontré pendant mon enquête, me confiera même qu'il avait songé à acheter un appartement dans cette rue avant de renoncer à cause du souvenir de la mort de cette femme qu'il ne connaissait pas. Je vois Philippe Moreau comme une sentinelle sur son rempart, un homme dont la mission est de s'assurer que le joyeux foutoir que la modernité appelle vivre ensemble continue de tourner. De son métier, il tire des considérations générales sur la délinquance et les profils des jeunes qui dérivent, tout en prenant soin de ne jamais rudoyer quiconque et d'individualiser les peines autant que possible. Savez-vous ce que c'est la tribologie, monsieur? C'est la science des frottements. Le juge est celui qui atténue la puissance violente de la justice lorsqu'elle frotte un individu, afin que celui-ci n'en sorte pas brisé. Comme dans un moteur, lorsque l'on applique un film d'huile entre les pièces mobiles et les pièces fixes, ce film d'huile, c'est moi. La difficulté de sa mission réside dans le fait que l'institution qu'il incarne n'a aucune prise sur les jeunes comme Saïd. En s'installant dans son fauteuil de juge le jour de l'audience, Philippe Moreau avait parfaitement conscience que la norme qu'il représentait allait s'abattre sur un gamin des pentes qui ne l'avait pas ingéré. Saïd était dans l'anomie totale, c'est-à-dire dans un état où il s'était émancipé de toute règle de vie commune. Lui obéissait à d'autres lois, celles de l'envie, du besoin immédiat. Philippe Moreau ne croit pas au libre arbitre. Ce serait trop simple de juger un homme en pensant qu'il a l'entier contrôle de ses choix. Ce qu'il juge, c'est plutôt la capacité à s'extraire des déterminismes, cette extraction qui donne une plus-value à nos existences. C'est toute l'impossibilité de sa fonction. Administrer la brutalité d'une règle tout en adoucissant la dose afin de limiter les dégâts. Le jour de l'audience, il avait face à lui un garçon tout juste majeur qui allait voir sa vie lourdement écrasée, sinon anéantie, par son jugement. Le magistrat savait que l'on se remet difficilement d'une peine de prison à l'âge de 19 ans, surtout quand le jeune en question a l'air totalement dépassé par son acte. Que ce soit clair, Saïd, je ne l'absous de rien, mais ça ne pouvait pas ne pas arriver. Cette fatalité, le magistrat l'impute à tous. Au propre manquement individuel de Saïd, bien sûr, à son inconséquence, mais aussi à l'école, à la famille, aux facteurs sociaux, au mimétisme maladroit des choses vues, faisant de cet accident une faillite collective. La question n'est pas de savoir si Saïd a agi selon ses désirs, mais s'il avait choisi les désirs qui le déterminaient, s'il était capable d'un tel choix. Comme si Saïd nuisait malgré lui. Philippe Moreau le dit ainsi. Le décor des pentes de la Croix-Rousse renseigne plus sur la collision que la roue arrière en elle-même. Certains risquent d'entendre dans cette lecture de la justice une approche de juge rouge, le summum du relativisme et de la culture de l'excuse dont la déploration est devenue rengaine. Si Philippe Moreau n'est pas sourd au vacarme de l'époque, son expérience l'a rendu hermétique à ses accusations et aux appels à la fermeté, qu'il balaie d'un rire sardonique et philosophe. La justice n'a jamais fait peur. Et il insiste sur le jamais. La malédiction de la justice est de ne faire que des mécontents. Son rôle est simplement de dire non. Non aux pentes naturelles des hommes. Et l'absorption de soi dans la vitesse en est une, au même titre que les pulsions de lynchage et la gourmandise de mettre tout le monde en tôle. Si notre office est de dire non, ça implique de servir de punching ball. C'est le cas et on l'assume, sans en tirer fierté. À l'entendre parler de fatalité, je me dis que ce n'est pas une mince affaire d'essayer de faire son métier humainement et de tenir cette ligne de crête en entendant des politiques et des éditorialistes vous dénigrer à longueur de matinale. À ceux qui réclament à chaque lendemain de faits divers une simplification de la procédure pénale, Philippe Moreau oppose le ricanement de celui qui entend ça depuis 40 ans. Simplifier la procédure pénale, j'adorerais. Mais il n'y a rien qu'on pourrait en retirer sans que ce soit intolérable. Vous savez, j'ai été rédacteur du texte qui a introduit l'avocat dans la garde à vue au début des années 90. À l'époque, ça faisait scandale et on criait déjà la culture de l'excuse. Aujourd'hui, qui en parle encore ? En homme de scène, Philippe Moreau a le don de ramasser sa pensée en formule. Mon professeur disait « La procédure pénale, c'est les mains que la société s'attache dans le dos pour ne pas écraser l'individu. » Quand je juge, je n'oublie jamais cette phrase. Une phrase qu'il a toujours en tête quand il se retrouve face à des gens écrabouillés par la vie et les mauvais choix. Ceux qui font le coq et qui narguent son institution comme ceux qui, les mains tremblantes, sont terrifiés de se retrouver face à lui. D'où la nécessité de juger à hauteur d'homme, c'est-à-dire de ne pas seulement juger un acte, mais son auteur. Alfred Cordier, l'avocat de Saïd, a la même conception de la justice. Il se méfie du bon sens, car d'après lui, si vous dites que quelqu'un de violent doit aller en prison, c'est du bon sens, évidemment. Mais la justice, ce n'est pas que du bon sens. C'est un examen de cas particuliers, avec des principes et des exceptions. C'est du sur-mesure. C'est pas du prêt-à-porter. Davantage qu'une sentinelle, c'est peut-être cette image qu'il faut conserver de Philippe Moreau. Celle d'un homme qui, depuis son bureau, prend la loi comme un patron, dont il ajuste en permanence les finitions et les coutures pour ne pas étouffer l'homme qu'il s'apprête à condamner. En m'escortant dans le couloir du tribunal, Philippe Moreau donne le sentiment d'avoir enfin clos ce vieux dossier d'accident de la route et d'être allé au bout de ce qu'il devait au parti civil en tant que juge et surtout en tant qu'homme. En personnage soucieux des apparences et de la dernière impression, comme si c'était plus fort que lui, il glisse « Vous savez, je suis motard, mais n'oubliez pas de dire que je suis cycliste aussi. » Sur le bureau de ma mère, qui jouxte le salon de l'appartement familial au bord de la Saône, se trouve encore ce qu'on appelait ses tas. Des tas de feuilles, au milieu desquelles elle travaillait, et qui nous suivaient à chaque déménagement, en étrange colocataire. Un amoncellement de lettres, de factures, de plans de bâtiments qu'elle avait construits, de documents administratifs, de faire-part et de papiers épars qu'on garde au cas où, qui vont de la garantie de la machine à laver au bulletin de notes de cinquième. Parmi ces documents, il y a un paquet de feuilles reliées par une spirale d'anneaux noirs et protégées par une couverture en plastique. C'est un mémoire d'une cinquantaine de pages qu'elle a rédigé un an avant sa mort et que personne dans la famille n'a jamais lu, repoussé par l'imbitabilité du titre. Hatha Yoga Nusasanam, éloge du présent, dans les Yoga Sutras de Patanjali, ou la qualité de présence dans les 8 membres du yoga. 50 pages d'érudition, de formules en sanskrit, de descriptions de postures de yoga accompagnées de leurs traductions spirituelles, sur lesquelles ma mère avait travaillé pendant des mois, et qu'elle avait présentées à la très sérieuse École française de yoga afin d'obtenir son habilitation à devenir professeur. Un travail de recherche qui dort depuis 13 ans dans un des fameux tas du bureau. En s'appuyant sur des enseignements relevés dans la Bhagavad Gita, les Upanishads, chez Proust, Baudelaire et sur sa propre pratique du yoga, elle y développe une réflexion sur la fuite du temps, sur la vitesse qui déforme l'espace et les rapports humains, et sur la nécessité de lui substituer la qualité de présence, cette bouffée d'oxygène en réponse à l'apnée du rythme sociétal. Quand on en déboise les références yogiques, c'est aussi une méditation critique sur sa hantise de l'habitude et son incapacité à vivre le présent. Ce petit précis de philosophie yogique vient éclairer ce qui occupait ses pensées, quand, assise en tailleur sur le balcon d'un ashram de Pondichéry, où elle m'avait emmené à la fin de sa vie, elle saluait le soleil levant face à la mer. Parmi les postures qu'elle explore, il y a celle de la tortue, le Kurma Asana, qu'elle exécutait chaque matin, bras repliés sous les jambes et menton à terre. L'animal, qui symbolise la lenteur en Occident et le support du monde en Orient, doit précisément sa longévité à sa respiration très lente, à sa capacité à se retirer dans la tendresse qu'il conserve sous son espèce carapace. Malgré sa lenteur, c'est sa persévérance qui, à la fin de la fable, lui fait gagner la course. Dans ce mémoire, que j'aurais dû lire avant d'entreprendre ce livre, ma mère écrit que l'apitoiement sur ce qui ne fut pas est aussi inutile que l'inquiétude de ce qui n'est pas. À plusieurs endroits, elle insiste sur la recherche d'un point d'équilibre pour mettre fin au ressassement obsessionnel, et plaide plutôt pour un état de présence qui n'est atteignable que par un total lâcher-prise, préalable indispensable à la posture et à sa tenue dans la durée. Le lâcher-prise, cette expression si agaçante, dont la promesse assure de florissantes affaires à des charlatans de toute obédience, n'est pas qu'un marronnier de magazine féminin, mais le corollaire de l'acceptation de ce qui est et du consentement à l'état des choses. C'est même le béaba du yoga. Repasser les plis que nos expériences ont inscrits dans notre psychisme. Se dépassionner, se déposséder du passé pour se relier au moment présent et quitter le ressassement stérile de ce 6 juin 2012 à 17h13 quand les 80 km/h de la KTM 654 rue Romarin ont prétendu rendre dérisoires ces considérations. Ce mémoire dormant, tout comme le centre de yoga qu'elle a ouvert dans ce quartier pentu, prend tout son sens à la lumière de l'accident et de la polarisation politique qui anime la société. Dans ces pages, ma mère semble avoir présagé la catastrophe et nous avoir laissé des messages avant de partir. À moi, chez qui la rumination avait poursuivi ses basses œuvres nauséeuses, et à Saïd, qui se perdait dans sa fuite en avant. Et là où ma sœur et moi l'on raillait de son vivant les exposés obscurs qu'elle tentait sur les yoga sutras de Patanjali, on donnerait désormais notre monde pour qu'elle revienne, ne serait-ce que quelques heures, afin de nous guider sur ce sentier intérieur. Peut-être que, depuis le début, la réponse au tourment du deuil se trouve là, dans le yoga, c'est-à-dire dans un certain rapport à soi et donc à l'autre. À lire les messages qu'elle a laissés, je me dis que le rapport que j'essaie d'avoir avec celui qui m'a rendu orphelin est en soi une posture de yoga. Une position complexe qu'on tient en équilibre le plus longtemps possible, en se concentrant sur sa respiration et le moment présent, pour surpasser la tension et faire en sorte que la douleur soit remise à sa place. Et il avait fallu s'approcher le plus possible de Saïd, le regarder marcher librement, l'observer prendre un café, s'allumer une cigarette, entendre le son de sa voix, presque sentir celui par qui le malheur est arrivé, pour atteindre cette vérité universelle qui s'impose comme une évidence aux esprits plus sophistiqués. Dans une époque où tout conspire à me le faire détester, où l'on est entouré d'une horde vengeresse qui nous voudrait des siens, la seule manière d'habiter un monde impitoyablement indifférent à nos chagrins est peut-être d'en épouser la nécessité en acceptant que quelque part dans Lyon, Saïd continue sa marche, si chancelante soit-elle, en essayant de ne pas trébucher et en lui souhaitant à son tour de ralentir le temps et de trouver son point d'équilibre.